Ce soir, dans 3 heures, c'est le premier d'une série de 3 débats présidentiels entre le démocrate Joe Biden et le républicain et président sortant Donald Trump. Et évidemment, c'est un moment fort en politique, un moment fort de la démocratie. Ça a des impacts aussi ici au Canada, ici au Québec. C'est pour ça qu'on en parle. Pourquoi? Parce que l'occupant de la Maison-Blanche peut quand même avoir une influence sur nos vies. Pensez seulement aux tarifs qui ont été imposés par le gouvernement de M. Trump. Ça a un impact, par exemple, sur les travailleurs de l'aluminium au Québec. Il y en a beaucoup. Toutes sortes de mesures comme ça qui finissent par avoir un impact sur nous. Donc, on va en parler immédiatement avec Raphaël Jacob. Vous le connaissez, c'est notre chroniqueur en politique américaine. Et Valérie Beaudoin, qu'on entend souvent sur les ondes de cette station, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, collaboratrice un peu partout sur les antennes de Cogeco. Salut, vous deux!
Salut.
Salut Valérie, on va commencer avec toi. Ce soir, débat ou freak show?
Écoute, on préfère des métaphores sportives, nous aussi, je crois, parce que avec tout ce qui circule de controverses et de, je dirais même, de théories du complot, là, j'ai l'impression que je vais vous parler d'un match de boxe où, parce qu'on parle de tests de dépistage, savoir si Joe Biden prend de la drogue ou des médicaments pour mieux performer. On parle aussi de voir s'il y a une oreillette, donc on devrait inspecter les oreilles de Joe Biden avant de commencer.
Et c'est ce que le président Valérie a laissé entendre aujourd'hui, ces derniers temps, là.
Et oui, il y a vraiment, le Fox News a fait des papiers assez élaborés là-dessus en disant aussi que le camp de Joe Biden demandait des pauses aux 30 minutes. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un résultat de des mois et des semaines à dire que Joe Biden est sénile, est pas intelligent, est pas habile, que c'est Sleepy Joe. Et là, ils se disent, mais on a un petit problème s'il performe bien ce soir. Donc, on va essayer de trouver une excuse d'avance pour expliquer ses performances.
Raphaël, débat au freak show?
La même chose, j'aborde dans le sens de Valérie et j'ajouterais également ceci à la liste des longues controverses, la longue liste de controverses pré-débat. Là, on a eu cette espèce d'idée un peu folle comme quoi le camp Biden aurait reçu les questions du débat à l'avance. Je précise, non seulement c'est faux, c'est complètement ridicule. Il y a une personne qui connaît les questions, c'est vrai aux 4 ans, c'est vrai pour tous les débats, c'est le modérateur de ce débat-là. Et donc, ça donne une petite idée de l'ambiance dans laquelle on est. Et effectivement, encore une fois, pour renchérir sur ce qui vient d'être dit, la meilleure chose que tu peux faire ou que tu peux avoir comme atout, comme candidat qui arrive à un débat, c'est d'être sous-estimé. Quand la barre a été mise très basse, souvent c'est parce que toi-même, ton propre camp, a travaillé pendant des semaines pour la mettre basse et pour, évidemment, une fois que le débat est passé, la dépasser et faire bonne figure. Là, le camp Donald Trump a passé le dernier mois, sinon plus, à mettre la barre la plus basse possible pour son adversaire, pour le candidat démocrate. Donc, écoute, Joe Biden a tout simplement présentement à être adéquat ce soir et il va avoir gagné son pari, là.
OK, mais dites-moi, vous connaissez le style des deux participants au débat ce soir, là, Raphaël et Valérie. Lequel est le plus outillé pour s'en sortir en termes de performance? Je parle pas des faits, je parle pas de plateforme, je parle juste qui est le meilleur performer ce soir.
Ah, si on va dans la performance, c'est sûr que Donald Trump va donner tout un show, hein, parce qu'il est très, très bon, il est très vite sur la réplique. Et on le sait, Joe Biden, en débat, a tendance à hésiter, à chercher un peu ses idées. Et s'il le fait ce soir, vous allez voir Donald Trump qui risque d'entrer dans la discussion et dans le débat assez rapidement, justement, toujours pour déstabiliser Joe Biden. Et je pense que je trouve pas une meilleure explication que ça, ou expression plutôt, il risque d'avoir aussi des petites passes un peu vicieuses. Alors, on va parler du côté personnel. Hein? On va vouloir aller dans certains détails plus personnels de Joe Biden, parce que l'objectif de Donald Trump, ça va être de le déstabiliser, parce que c'est dans ces moments-là, et on l'a vu dans des débats passés là, du camp démocrate, quand Joe Biden est avec des adversaires, c'est dans ces moments-là qu'il est le moins fort. Donc, au niveau, je pense, de la performance, quand on parle pas des faits, qu'on va y aller dans les statistiques ou dans les grandes déclarations, c'est sûr que Donald Trump est habitué, lui, d'animer les foules et d'improviser lorsque c'est nécessaire. Peut-être Joe Biden, c'est moins une de ses forces.
Raphaël?
Oui, je suis d'accord avec ça, avec peut-être une nuance ou un bémol. C'est-à-dire qu'on l'oublie, mais en 2012, Joe Biden était le vice-président et avait participé donc au débat vice-présidentiel cette année-là. Et il s'était comporté, de façon d'être un petit peu ironique, là, un peu comme Donald Trump avant Donald Trump.
Oui,
autrement dit, extrêmement arrogant, extrêmement impoli en fait, coupait continuellement la parole à son adversaire pour essayer de déstabiliser. Et au fil des années, et là je ne vais pas faire dans l'âgisme, il y en a plusieurs qui diraient que c'est parce qu'il a gagné en âge, ben il a perdu peut-être un petit peu de sa fougue, de cette espèce d'énergie-là sur scène. Donc, est-ce qu'on va avoir un Joe Biden version 2012 ou version 2019-2020. Je sais pas. Et l'autre nuance, je suis d'accord avec Valérie qu'au niveau performance, Donald Trump est un showman. En fait, écoute, il a gagné sa vie en bonne partie en faisant ça. En même temps, ce qui est également vrai, c'est que quand on regarde, par exemple, ce qui s'était passé au premier débat Trump-Clinton il y a 4 ans, Donald Trump s'était absolument pas préparé et il s'en était bien sorti pendant la première demi-heure, les 3 premiers quarts d'heure, mais dans la dernière demi-heure, c'en était pénible de le voir. Il manquait de mots, il manquait d'idées, il se répétait continuellement et il avait juste pas l'air prêt d'être président. Donc, je sais pas non plus à quel point on va avoir un Donald Trump au sommet de sa forme ou un Donald Trump qui s'est pas préparé, parce que s'il y a une chose qu'on sait, et le camp républicain l'a dit très ouvertement dans les derniers jours, c'est que la même approche qu'on avait utilisée en 2016 pour se préparer, ou plutôt pas se préparer au débat en 2016, c'est celle qu'on a préconisée en 2020 à l'aube de ce premier débat-là contre Joe Biden.
C'est qui le public cible ce soir?
Oh, écoutez, le public cible est assez large, hein, parce que en 2016, il y avait 84 millions de personnes qui ont regardé le débat, et les gens qu'on va vouloir, je dirais, attirer, c'est ces fameux swing voters, donc les gens qui peuvent encore changer d'idée, mais c'est quand même une minorité, là. On est dans un monde hyper polarisé aux États-Unis, donc il y a la base de Donald Trump qu'on dit toujours qui est là coûte que coûte, et il y a le camp démocrate que peu importe la personne qui était là, que ce soit Joe Biden ou quelqu'un d'autre, on aurait voté pour le démocrate parce qu'on déteste profondément Donald Trump. Donc, c'est pas pour ces gens-là qu'on va devoir bien performer, ça va être pour la minorité de gens qui peuvent encore changer, entre autres les gens qui avaient voté pour Barack Obama par le passé et qui ont passé au camp républicain en votant pour Donald Trump il y a 4 ans. Alors, on veut aller chercher ces électeurs-là, à mon avis, encore une fois, là, avec les débats, à savoir s'ils vont les regarder, ça, c'est autre chose.
Raphaël, les thèmes vont être séparés de quelle façon ce soir?
On est censé avoir donc 6 blocs de 15 minutes chacun. Il n'y a pas de pause, contrairement à ce qu'on a justement laissé flotter là, dans les dernières heures. Là, peut-être qu'il y aurait des pauses. Il n'y a pas de pause. Dans les débats présidentiels, dans les élections générales, il n'y a jamais eu de pause publicitaire. Il n'y en aura pas ce soir. Donc, c'est sur 90 minutes, 6 blocs. Les plus importants, on parle du coronavirus, des relations raciales, de l'économie. Et on s'en est parlé dans les derniers jours, en fait. Là, toi et moi, Patrick, je sais que Valérie, je pense que vous voulez glisser aussi un mot là-dessus. On est censé parler ce soir d'intégrité électorale, ce qui, en ce qui me concerne, tu le sais, une espèce d'aberration épouvantable qu'on ait besoin de débattre de ça dans un débat qui est censé avoir lieu dans la plus grande démocratie de la planète.
Oui, ben j'allais dire, je suis d'accord avec Raphaël, parce que c'est assez particulier de dire qu'on a besoin de prendre 1/6 d'un débat où les minutes sont comptées. C'est extrêmement important de faire le plus de thèmes possible, d'aller large, et on parle d'intégrité présidentielle et des élections et tout ça, mais je pense que c'est nécessaire peut-être dans le contexte qui est déjà explosif et qui, on peut penser, va être chaotique après le 3 novembre prochain, avec le président qui dit et qui ne veut pas garantir qu'il va avoir une transition pacifique s'il perd les élections. Donc, je pense que vraiment, ça va être un moment à écouter ce soir pour voir de quelle façon il va répondre à Chris Wallace, qui est le modérateur, qui risque pas d'être tendre dans ses questions ce soir. J'ai vraiment hâte de voir comment il va réagir, aussi comment Joe Biden va réagir face à tout ça.
Valérie, juste une seconde. Valérie, si tu étais conseillère de Joe Biden, tu le conseillerais d'attaquer sur quoi?
Écoute, d'attaquer sur la COVID-19, ça, je pense que c'est un bon angle, et aussi sur ses impôts. Parce qu'il y a cette controverse-là qui est encore là. C'est de l'article du New York Times. Je suis certaine que vous en avez parlé cette semaine, des fameux impôts, $750 que Donald Trump a payé, et le fait aussi que c'est peut-être pas l'homme d'affaires à succès qui a démontré. Et il s'est vraiment présenté comme ça pour l'élection de 2016 en disant, je suis un bon homme d'affaires, vous allez le voir, je vais vraiment mener comme une business la présidence. Et finalement, je pense qu'il va vouloir, Joe Biden, l'attaquer là-dessus et lui dire, écoutez, parmi les gens qui nous regardent, la classe moyenne, là, des professeurs, des serveurs, peu importe, ils payent plus que $750 d'impôts. C'est une aberration. Je pense que ça aussi, ça va ressortir du débat.
Raphaël, si tu es conseiller de Donald Trump, tu lui dis d'attaquer M. Biden sur quoi?
Je lui dis surtout de faire quelque chose qu'il n'a presque pas fait depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, c'est-à-dire de parler à quelqu'un d'autre que sa base. Tu sais, on se parlait des indécis qui sont au milieu, là. Si j'avais une priorité à lui rentrer dans la tête, mais je pense pas honnêtement que ça fonctionnerait de toute façon, ça serait d'essayer d'élargir son auditoire ce soir. Pas juste s'adresser à son noyau dur, pas seulement attaquer Joe Biden, essayer de ratisser plus large. Je te dirais que c'est le premier conseil. Et pour ce qui est de Joe Biden, je me permets d'ajouter aussi ceci. C'est complètement le contraire, en fait. Ça serait de garder le focus tout au long du débat sur Donald Trump. Cette élection-là, présentement, et c'est vrai depuis des mois, elle est à l'avantage de M. Biden, d'abord et avant tout parce qu'elle sert de référendum sur le président sortant. C'est un président qui est historiquement impopulaire. La meilleure chose que Joe Biden peut faire, c'est de continuer de faire ce qu'il fait depuis des mois, c'est-à-dire s'arranger pour qu'on parle, en fait, le moins de lui. Ça peut avoir l'air un peu surréel à dire, mais stratégiquement, présentement, ça reste la vérité.
Pensez-vous qu'ils vont... On n'est pas à l'ère des poignées de main là, à cause de la COVID. Pensez-vous qu'ils vont manifester des signes fraternels avant le débat?
Ça devrait pas. Ça serait surprenant de voir ça, en tout cas.
En fait, ce qui est assez remarquable, c'est que cette année, on l'a déjà annoncé, à cause de la COVID, justement, il n'y aura pas de poignées de main. Mais il y a 4 ans, c'était la première fois qu'on avait vu ça nos vivants. Évidemment, c'était lié directement au fait qu'on avait Donald Trump sur la scène de débat, là, qui était tellement polarisant. C'était la première fois qu'on avait eu 2 candidats. M. Trump et Mme Clinton qui avaient refusé de se serrer la main à la fin des derniers débats. Ça a donné une petite idée du climat, et ça c'était il y a 4 ans. On s'entend que le climat depuis 4 ans n'est pas tout à fait allé en s'adoucissant.
Dans le coin gauche, Joe Biden, 77 ans. Dans le coin droit, Donald Trump, 74 ans. Je pense qu'on va beaucoup, en parler demain. Ben, je vous souhaite un excellent débat, Valérie et Raphaël.
Merci. Bonne soirée.
Raphaël Jacob, notre chroniqueur aux affaires politiques, et Valérie Beaudoin, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste des affaires américaines.